Vin, le marché de midi.
Bonjour à tous. Entrez, soyez les bienvenus dans le marché de midi qu'Europe 1 ouvre jusqu'à 12h30. Du produit de saison, des recettes, un chef et un producteur. Notre menu est une fois encore bien alléchant aujourd'hui. Écoutez comme il croque. Ce délicieux petit légume d'été est un ami de l'apéro, mais pas que. Nous allons vous le démontrer. Vous voyez de qui je veux parler, mais du radis pardis. Et qui mieux qu'Éric Roy, maraîcher de Touraine et roi du radis, pour nous en livrer les secrets. Nous irons lui rendre visite tout à l'heure au milieu de ses légumes. Il n'y a pas que le radis beurre dans la vie, et ce n'est pas le chef Mathias Marc qui est déjà en train de croquer des radis qui le démentira. Tout à l'heure, en fin d'émission, il nous réservera une recette exclusive. Si l'heure de l'apéro a sonné chez vous et que vous croquez d'ailleurs peut-être quelques radis, surtout ne bougez pas. Nous autres non plus d'ailleurs. Tout le monde est le bienvenu. Le marché de midi, c'est tous les jours sur Europe 1 jusqu'à 12h30.
Europe 1, le marché du midi.
Bonjour mon cher Mathias, dernière émission de la semaine, vous nous avez accompagné depuis lundi. Je rappelle que vous êtes le chef du restaurant Substance à Paris et Liquide à Paris aussi. Il y en a un qui est dans le 16e et l'autre qui est dans le premier.
Exactement.
Voilà, plein cœur de Paris. Deux salles, deux ambiances, on l'a dit, un restaurant gastronomique, Substance. Vous avez l'étoile en ligne de mire, c'est quelque chose qu'aujourd'hui vous assumez ou vous dites si ça vient, ça vient, si ça vient pas, tant pis.
Ah, je serais un menteur de dire qu'on travaille pas pour. Après... Ça vient ou ça vient pas, mais en tout cas, on y travaille.
Bon, ce qui est sûr, c'est que compte tenu du contexte sanitaire et de ce que les restaurants ont traversé depuis quelques mois là maintenant, pour les inspecteurs des guides, hein, on parle du Michelin, mais il y en a d'autres, c'est quand même un peu compliqué aussi de venir juger de manière très objective ce qui se passe.
Ah, ils doivent concentrer les visites, c'est sûr, et puis c'est facile pour personne, hein, que ce soit... pour les restaurateurs, pour les chefs, pour tout le monde, c'est assez compliqué d'essayer d'avoir une cohérence globale sur l'année et d'essayer d'être bon tout le temps vu ce qu'on traverse. Mais après, voilà, c'est notre boulot.
On sait que la restauration a beaucoup souffert au moment de la réouverture par manque de personnel. Ouais. Vous êtes concerné aussi, vous avez perdu du personnel, vous avez du mal à recruter.
On a eu un roulement, après je ne pense pas être forcément la bonne personne pour pouvoir juger tout ça avec la médiatisation que j'ai eue cette année.
Oui, parce qu'on rappelle que vous avez fait demi-finaliste de Top Chef et que vous êtes un candidat qu'on a beaucoup suivi et beaucoup apprécié d'ailleurs.
Bah écoutez, merci, mais c'est vrai que voilà, je ne suis pas forcément la bonne personne pour pouvoir juger tout ça, mais pour en parler pas mal avec pas mal d'amis restaurateurs, c'est vrai que c'est quand même très compliqué. Apparemment, il y a 180 000 personnes qui ont déserté le milieu de la restauration, et ce qui est quand même malheureux, parce que c'est un très beau métier, et c'est vrai que c'est compliqué pour beaucoup, beaucoup de monde, et notamment des grandes maisons qui n'ont jamais eu de problème, donc c'est quand même un petit signal d'alerte.
Ouais, et les différents confinements et les périodes de fermeture, vous les avez mises à profit? Pourquoi, en ce qui vous concerne, vous avez réfléchi à des nouvelles recettes? Vous avez continué à cuisiner ou vous êtes finalement un peu reposé?
Ah, j'avoue que j'étais malheureux sur le premier confinement. Là, j'avais l'impression d'avoir un problème dans ma vie, quoi. Plus personne ne m'appelait, j'avais plus mes amis producteurs, plus mes clients, c'était compliqué. Et après, je me suis mis en route pour essayer de faire développer justement les restaurants et de travailler un peu les prochaines recettes qui allaient arriver.
Bon, alors en parlant de recettes, vous allez en avoir une dernière à nous livrer cette semaine en fin d'émission. Regardez ce qu'il y a devant vous là. Il y a toute une magnifique collection de radis. Hein, le radis qui est probablement originaire d'Asie mineure. Il était déjà consommé il y a 4000 ans par les Babyloniens et les Égyptiens. Les Grecs vénéraient Apollon au travers le radis. Durant de nombreux siècles, l'homme va davantage consommer les feuilles de radis, plutôt d'ailleurs que les racines. Les variétés étaient cependant bien différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. Le petit radis rouge, célèbre compagnon de l'apéro actuel, n'est apparu qu'au XVIIIe siècle, issu de croisements. Le radis fait partie de la famille des brassicacées, comme le raifort d'ailleurs. Il en existe de nombreuses variétés. Vous avez là devant vous un certain nombre de variétés. On a au moins 5 ou 6 variétés de radis, donc elles sont nombreuses. Il y a le radis de 18 jours, le national, le rond écarlate, le red mid, etc. Ce qui permet en réalité d'en cultiver toute l'année. Vous l'avez croqué le radis, qu'est-ce que vous en pensez?
Eh ben, le radis, je le trouve assez puissant. Moi, j'ai le petit radis... J'ai le radis un peu long là, qui est rouge, je ne vais pas dire de bêtises parce que sinon Éric va m'engueuler et je le connais suffisamment bien.
Éric, c'est Éric Roy, le maraîcher que nous allons aller retrouver dans un instant en Touraine. Hein.
Exactement, que j'apprécie et qui m'envoie ses merveilleux produits dans mon restaurant. Donc non, il est piquant, mais à souhait, il a une subtilité. En plus, voilà, Eric, je trouve, maîtrise la maturité à perfection. Il sait vraiment quand le ramasser pour que justement il soit tout en finesse et tout en pleine expression. Donc non, c'est magnifique. Hein.
Est-ce que c'est une source d'inspiration pour vous, le radis? On parlait tout à l'heure du radis beurre. Bon, évidemment, ça c'est un des bons vieux classiques, mais il y a plein de choses à faire avec le radis, avec les radis d'ailleurs.
Il y a plein de choses à faire, et ce qui est génial, c'est que je pense que toute l'année, je les travaille, que ce soit les radis d'été, les radis d'hiver. C'est vraiment un produit qui est de caractère. On y revient. Je vois que vous aimez ça d'ailleurs aussi chez Europe 1, mon cher Olivier.
Oui, on aime ce qu'il y a du caractère.
Et bien là, ça en a. Et en plus de ça, voilà, ça permet de faire plein de choses, et ça donne vraiment un côté très, très caractère, justement, à un plat de légumes qui pourrait paraître un peu simple, ou là, c'est un produit qui donne de la force.
Eh bien, nous allons aller les récolter, ces radis. Je vous propose de mettre les bottes. Alors, je ne sais pas si on a besoin, mais en tout cas, on va partir dans les champs. Vous l'avez dit, les champs du producteur Éric Roy, qui est maraîcher à Sainte-Genoupe, en Touraine. Un très, très, très bon maraîcher qui fait des radis, mais pas que. Nous le verrons dans un instant. Nous percerons tous les secrets, d'ailleurs, des variétés de radis. Il nous racontera comment les cultiver et comment les magnifier. Je vous attends tout à l'heure en fin d'émission pour une recette. Le marché de midi continue sur Europe 1 juste après ceci.
Europe 1, le marché de midi.
Ah, écoutez comme il croque ce délicieux radis. Des radis que nous allons maintenant aller récolter ensemble. Nous allons prendre la direction de la Touraine pour retrouver un maraîcher, que dis-je, l'un des plus grands maraîchers de France, peut-on...
Sans aucun doute.
Peut-on s'avancer? Il s'agit d'Éric Roy, le maraîcher des grands chefs. Bonjour Éric, comment allez-vous?
Bonjour à tous, je vais très bien, je vous remercie.
Est-ce que vous êtes au milieu de vos champs de radis ou d'autres légumes? Qu'est-ce qui pousse d'ailleurs en ce moment?
Il y a plein de choses qui poussent en ce moment, on est dans une belle saison. On a toutes, nous, on est spécialisés dans les mini-légumes, alors on fait des racines un peu toute l'année, on fait toute une collection de carottes, de betteraves, de radis navets et consorts, comme on va en parler tout à l'heure, de petits poireaux, oignons cébettes, fenouil, etc., etc. Et puis on agrémente ça au gré des saisons avec les produits typiques donc d'été en ce moment, avec des mini-courgettes, avec d'autres produits comme ça. Et s'en suivront ensuite l'automne et l'hiver prochain, des mini-panais, mini-salsifis, mini-céleri, etc., etc.
Alors pourquoi mini?
On s'amuse bien. Mini parce que je suis dans des terres qui sont assez magiques, en bord de Loire, entre la Loire et le Cher. Mathias pourrait vous en parler parce qu'il est venu sur l'exploitation, et il a découvert ça il y a quelques temps. Et on est sur des limons qui sont d'excellente qualité, qui conservent bien l'eau et les éléments nutritifs. Donc ça nous permet d'avoir des légumes jeunes qui ont déjà du goût et avec une texture pas trop fibreuse. Donc ce qui permet de faire des petits légumes et les récolter juste au bon moment.
Pierre Gagnère ou Emmanuel Renaud, qui est venu nous voir d'ailleurs ici, ou Mathias Marc sont parmi les chefs qui s'approvisionnent chez vous. Vous aimez aussi emmener les chefs, je crois, directement dans vos champs, qu'ils viennent s'imprégner de la manière dont vous cultivez.
Exactement, c'est quelque chose d'important pour moi, pour vraiment apporter un peu de complicité dans la relation, ce qui permet de créer des plats après, derrière. J'ai eu quelques belles histoires comme ça.
Mathias, vous confirmez, vous êtes allé donc dans les champs, vous avez récolté des légumes. C'est intéressant, il faut comprendre aussi comment ça marche.
Non, c'est magique. Et puis la force d'Éric, c'est de pouvoir aussi transmettre et de faire comprendre exactement comment ça se passe dans ces champs. Et c'est vrai que derrière, on revient, il y a d'avoir quelques heures de route pour remonter à Paris. C'est vrai que ça cogite hein, dans la voiture. Hein. Je me vois encore réfléchir au plat en revenant de chez Éric.
Alors revenons à nos radis, Éric. Vous en avez combien de variétés et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la culture de cette plante? Parce qu'en réalité, dans le radis, tout est bon. On utilise aussi bien la racine que les feuilles.
Exactement, exactement. C'est important d'avoir des cultures qui soient saines, bien menées, sans stress, pour qu'on puisse utiliser toute la plante. Alors encore plus quand on est en bio, parce que ça permet vraiment d'assurer un feuillage utilisable. Mais un feuillage de qualité, c'est aussi important pour faire des pestos. Je pense que Mathias pourra nous en parler tout à l'heure.
Ne me crame pas, Marcette, tu vas balancer Marcette avant tout le monde.
Non. Et ce qui est super important, c'est de cultiver ce légume, alors comme je vous disais, sans stress, c'est-à-dire en lui apportant la bonne quantité d'eau au bon moment, qu'il soit semé dans une terre riche et profonde, sans trop de mode de terre qui viendrait créer des aspérités autour des racines, et puis bien aérer les abris à certaines saisons pour pouvoir avoir un légume qui est poussé tranquillement. Et s'il pousse tranquillement, il ne sera pas fibreux, et excepté en plein été, il ne sera pas piquant.
Oui, parce que le radis, il peut être très piquant, parfois même c'en est limite dérangeant, et parfois il est très doux. C'est la chaleur qui fait monter le niveau de piquant, en fait.
Exactement, voilà. C'est une molécule qui se développe surtout quand il y a un stress hydrique ou de la chaleur. On n'y peut pas grand-chose. On a des variétés comme celle que vous avez devant vous. Vous allez avoir le radis asiatique violet allongé ou le rose allongé que je vous ai fait parvenir,
oui,
qui sont eux plus piquants que les petits ronds plus traditionnels. Et donc, il faut jouer avec ça, en fait. Vous avez des solutions pour enlever ce piquant, c'est de les slicer, par exemple, des couper finement, des mettre dans une salade pour diminuer ce côté piquant. Sur le petit rond ou le petit radis beurre assez classique, là on a un peu moins de problèmes avec cette molécule qui se développe, mais ça permet de jouer avec les saveurs et puis les idées recettes du coup.
Je vous confirme, vous nous avez apporté plusieurs variétés. Oui, ce violet, il arrache un peu, comme on dit, il est tonique. En revanche, les petits blancs, ils ont un côté qui fait davantage penser aux navets, je trouve, même en termes de goût.
Alors, je vous ai mis des petits navets de Tokyo volontairement pour que vous puissiez voir la différence. Et vous, de toute façon, c'est la même famille de plantes, hein, comme vous l'avez évoqué en début d'émission. Parce que les usages, du coup, d'un petit navet comme cela, ils peuvent être accrus en salade ou alors cuit. Moi, quand j'ai découvert ce navet, je l'ai dégusté avec une simple huile d'olive de belle qualité de Provence. Et une fleur de sel, et c'était tout. Et c'est comme ça que j'ai choisi cette variété, c'est en la goûtant.
Comment on choisit ces radis sur le marché pour être certain d'avoir des radis de qualité ?
Alors la première chose, on choisit un radis ou un navet, enfin une crucifère de cette famille-là, à l'œil, c'est-à-dire qu'il faut absolument que les feuillages soient de belle qualité, parce qu'ils sont gages de fraîcheur. Déjà sur un marché, il faut s'assurer qu'on soit bien chez un maraîcher qui produit plutôt qu'un détaillant qui peut acheter, voilà, parce qu'un revendeur il peut acheter à des endroits où le produit a été stocké, et ça c'est des produits qui contiennent 98% d'eau, je crois, quelque chose comme ça. Donc toute récolte rapide et commercialisation rapide, c'est gage de qualité. Donc il faut maximiser la fraîcheur, donc en achetant à l'œil. Et puis, je sais que ça se fait pas en ce moment, mais c'est vrai que si on voit une racine de radis qui est un peu flétrie, qui est un peu molle, c'est pas la peine. Voilà. Il faut vraiment qu'on assure un produit crunchy pour avoir toutes les qualités derrière.
Voilà, il faut que le feuillage montre qu'il est encore en pleine forme. Il faut que le radis soit ferme et le plus brillant possible. Vous les mangez comment, vous les radis? Vous avez des petites recettes, des trucs et astuces, et c'est quoi votre manière de les déguster?
Je vous dis, nous on fait beaucoup de petites salades avec du quinoa, du pamplemousse et des radis, par exemple. Ça se fait en 2 minutes, c'est assez rapide. Voilà, alors après, de temps en temps, je les mets dans des petites poêlées de légumes aussi. Vous voyez, même les radis ronds à croquer, je les mets en poêlée, ça m'arrive. Voilà, donc des usages simples et rapides. C'est l'avantage de ce produit, c'est que c'est à tous ceux qui n'ont pas le temps de cuisiner, c'est extrêmement pratique parce que c'est multi-usage et c'est vite, il n'y a pas d'épluchage et donc c'est très vite préparé.
Et quand on le chauffe, quand on le cuit, le radis, il perd aussi son côté piquant presque instantanément. Il devient tout doux.
Exactement, il peut perdre un peu de coloration aussi. Mais c'est pas très très grave sur un mélange de légumes.
Merci beaucoup Eric Roy, c'était passionnant de vous écouter parler de ces radis et de toutes ces variétés de radis. Je rappelle que vous êtes maraîcher à Saint-Genoux en Touraine et que j'imagine que tout au long de cet été vous allez être beaucoup pris par les récoltes. Il n'y a pas beaucoup de vacances qui se profilent pour vous aussi.
Pas beaucoup, non, on s'ennuie pas.
Bon, continuez en tout cas à provisionner nos chefs de vos beaux produits authentiques et goûteux. Bravo pour cette belle sélection de radis que nous avons pu déguster. Sélection de radis que Mathias Marc va maintenant cuisiner. Dernière partie de l'émission dans un instant avec la recette. On se retrouve juste après ceci sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 et c'est le marché de midi.
Faites votre marché avec Olivier Pouls
sur Europe 1.
Car il faut manger des radis avant que ce soit les radis qui nous mangent. Il faut manger.
Eh oui, Mathias Marc, il faut manger des radis, on est d'accord.
Les radis, c'est la vie.
Et les radis, c'est la vie. Tiens, est-ce que vous savez d'ailleurs d'où vient l'expression j'ai pas un radis?
Eh bien, non.
Eh bien, elle apparaît en 1842. Je fais un peu mon Stéphane Bern, là. Le radis a toujours été bon marché, en fait, au point qu'on les offrait dans les estaminets du nord de la France et de Belgique, comme on donne parfois aujourd'hui des cacahuètes. Hein. D'ailleurs, l'expression fonctionne aussi, j'ai pas une cacahuète. Et donc, c'était une quantité négligeable qui ne valait rien. J'ai pas un radis, j'ai rien. Voilà l'explication.
Eh bien, dis donc, je pense que ça a bien changé. Parce qu'avec des beaux radis comme ça... On en a des radis.
Oui, c'est vrai. Et ils sont loin de ne rien valoir. Ils sont délicieux, les radis de notre producteur que vous allez maintenant devoir cuisiner. Et j'ai comme dans l'idée que rien ne va se perdre dans le radis, parce qu'ils sont arrivés entiers. Donc il y a le radis, évidemment, mais il y a tout ce feuillage superbe et vert, intense derrière, qui serait quand même dommage de jeter ou de donner au lapin.
Complètement. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler le radis de différentes manières pour essayer de, justement... Comme vous en avez parlé tout à l'heure avec Eric, mon cher Olivier, c'est que vous avez parlé justement du fait que quand on le cuit, on perd le piquant, qu'il y a ce côté piquant accru, et on va travailler tout ça de manière différente. Alors, on commence par faire une papillote. Mmh. Attention, on va prendre un petit peu d'aluminium, on va mettre des radis rouges, hein, assez classiques. On va mettre, 5-6 radis dans une papillote, 4-5 cerises qui sont coupées en deux, dénoyautées. Ensuite, on va ajouter quelques branches de verveine, un peu d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre. Et on va venir jeter ça ou au four, si on n'a pas de barbecue.
Mais je sens que vous allez encore vouloir ressortir votre barbecue.
Ah bah il est là, c'est l'été.
Et donc vous allez mettre la papillote sur le barbecue.
Ou je dirais même dans la braise.
Ou dans la braise.
Dans la braise. Donc ça va ramener un petit côté fumé. Et en fait, le radis va se nourrir de cette eau de cerise qui va juste un peu confire et de cette verveine qui va ramener pas mal de fraîcheur. Donc on va avoir ce côté vraiment... juste un peu cuit, un peu fruité avec...
Faut qu'on garde du croquant quand même.
Faut qu'on garde du croquant. On va le laisser, je dirais peut-être 5 minutes dans la papillote. Et ensuite, on va ouvrir les papillotes, on va avoir cette fumée, cette odeur de verveine, de cerise et de radis qui va se dégager, qui va être assez extraordinaire. Et donc ça va être notre base. On va avoir des radis cuits, on va venir mettre au fond de l'assiette donc les radis, les cerises, on va enlever la verveine, parce que la verveine, on la garde pour la fin. Mmh. Et ensuite, on va venir faire un petit condiment, un petit pesto. Comme ouais, on l'a dit,
avec les feuilles.
Bah oui, c'est important. Donc on va venir mixer dans un blender, tout simplement, les fans de ces fameux radis.
Qu'on aura bien nettoyé, évidemment, et essoré.
Évidemment, avec un petit peu de verveine, pour garder cette trame aromatique, un peu d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre, et un petit jus de citron vert, pour garder ce côté Pepsi, pour fixer la chlorophylle de la fan aussi, qui est très importante.
Et on mixe ça de manière la plus homogène possible pour avoir un pesto
de tout simplement. Et après voilà, c'est à vue, hein. Donc c'est quand c'est suffisamment liquide, on arrête d'ajouter de l'huile. Et voilà, le pesto est prêt. Donc comme je vous ai dit, dans le fond de l'assiette, les radis cuits. Ensuite, on va venir recouvrir le tout de pesto. On peut faire un petit zébrage si on a une pipette, si on sent un peu artiste.
Une âme créative.
Une âme créative, on peut le faire. Et après, bien sûr, on va garder le côté authentique du radis. On va venir faire des petits copeaux de radis à la mandoline ou au couteau si on n'a pas de mandoline. Voilà, l'idée, c'est que ce soit le plus fin possible. Et on va venir. Et après, quand on a des bons radis, on n'a pas besoin de les mettre dans la glace. Parce que souvent, dans les grandes cuisines, on fait mettre les copeaux de radis dans la glace pour les durcir. Mais quand on a des beaux radis comme ceux d'Eric, il n'y a pas besoin. Et après, on va venir recouvrir le tout avec ces fameux copeaux de radis.
Magnifique, c'est estival, c'est frais, c'est du jeu de texture, c'est croquant, c'est du jeu de saveur, c'est du Mathias Marc.
Bah, merci en tout cas, ça me plaît.
Merci à vous. On a encore envie de boire un dernier coup, peut-être quand même. Hein.
Hey, ça va pas être facile là, non ?
Ça va pas être facile à accorder du tout, donc c'est le challenge d'Anatole, votre sommelier, qu'on va appeler tout de suite. J'espère qu'il a bien noté la recette. Et je l'attends au tournant, hein, parce que l'accord sur le radis et le côté piquant du radis, c'est pas un cadeau. On va voir ce qu'il a dans sa besace. On l'appelle.
Allô ?
Oui, bonjour Anatole. Comment ça va ?
Oui, bonjour Olivier, allez-vous ?
Ben ça va bien, enfin jusqu'ici tout va bien, mais pour la dernière émission de la semaine, on ne vous a pas fait un cadeau. Et là, le chef n'a pas été très aimable, hein, puisque vous avez la lourde tâche d'accommoder sa recette avec un vin. Il vous l'a donné la recette, donc ce jeu de texture de radis cuit en papillote, servi à cru par-dessus avec le pesto de fan. On est quand même dans quelque chose et de piquant et de végétal. Bref, ce qui normalement ne fonctionne pas très bien avec les vins. Hein.
C'est vrai, mais je trouve que c'est justement très très intéressant et qu'on pourrait se faire plaisir. Moi, je vais vous emmener du côté de la Loire. Je pense que toute la Loire pourrait justement être ici intéressante, du Muscadet Nantais au centre Val-de-Loire avec le Sancerre. Mais moi, je vais vous emmener particulièrement ici sur un Chenin blanc. Donc, on va partir à Saumur et plus particulièrement à Saumur puis Notre-Dame, où j'invite évidemment vos téléspectateurs un petit peu à regarder un petit peu plus du côté de cette appellation qui grandit. Le chenin ici, c'est très intéressant puisqu'on a le radis en papillote qui apporte un petit peu de profondeur, les copeaux de radis qui apportent un petit peu de fraîcheur, le pickles qui va apporter de l'acidité, la cerise un petit peu de sucrosité, la verveine qui est frite, elle, du gras et surtout ces arômes très très intéressants. Et donc ici sur le Saumur, on est sur des terroirs, ce qu'on appelle le tuffeau, ce sont des terroirs de craie humide et qui vont justement apporter ces arômes très intéressants, un petit peu humides, un petit peu puissants dans le vin, tout en légèreté, tout en délicatesse, justement. Et le chenin, c'est un cépage très intéressant, notamment pour ses arômes très exotiques, pour cette acidité aussi qui est bien présente. Ce que je conseillerais, ce serait un Saumur, puis Notre-Dame, sur un millésime tout de même assez récent pour garder ce côté très vert, très végétal, et le servir justement à une température un petit peu au-dessus de ce qu'on pourrait avoir l'habitude de faire, de manière à faire ressortir ses arômes pour justement magnifier ce radis.
Eh bien, dites donc, Mathias, il a travaillé, le copain Anatole, là.
Ah, on dirait pas, mais il bosse. Hein.
Ouais, il a sacrément bossé. Bon, moi, évidemment, tout ça, ça me donne très envie de tester. Donc, moi, je vous propose de vous libérer, hein, Mathias, pour repartir au restaurant. Le temps de bricoler cette petite recette de radis, je pense que le chenin sera à la bonne température. Et il faut quand même vérifier que ça marche, parce qu'en parler, c'est bien, mais le vérifier, c'est encore mieux. Si on veut déguster votre cuisine cet été, alors vous allez quand même prendre un petit peu de vacances, mais en tout cas, à partir de la rentrée, vous serez de retour. Les restaurants Substance à Paris et Liquide à Paris aussi, l'un dans le 16e et l'autre dans le 1er arrondissement de Paris. Un grand merci d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine.
C'était un bonheur en tout cas.
Eh bien, c'était un plaisir de vous accueillir et de découvrir vos recettes originales, votre demi-finale à Top Chef. Vous ne l'avez pas volé, vous auriez pu le gagner, franchement.
Ouais, je pense qu'il y a... Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai raté quelque chose.
Voilà, enfin, ouais, écoutez, en tout cas, vous n'avez pas raté votre prestation ici cette semaine. Ça nous a donné très envie de déguster tout ça. Sur le site europe1.fr, on peut retrouver toutes les recettes que vous nous avez livrées cette semaine. On peut retrouver les émissions en podcast. Merci Marion Sauveur, merci Corinne Reich, avec qui nous préparons cette émission tous les jours. Nous nous retrouverons lundi pour un nouveau marché de midi avec de nouveaux produits et un nouveau chef. Et tout de suite, eh bien, c'est l'information qui arrive sur Europe 1 avec Europe Midi et Thierry Dagiral. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, à lundi midi, les amis. Bonne journée.